Frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver et avec vous de faire un pas de plus dans la mission que Dieu nous a confiée. Je voudrais avec vous faire une lecture dans le livre de Josué et vous parler ce matin du passage du Jourdain. Je ne vous cacherai pas qu'en préparant cette méditation, j'ai pensé à notre passage dans la nouvelle Église et dans tout ce que cela va nous ouvrir comme nouveau chemin. Donc je lis avec vous Josué chapitre 3, verset 14. Josué 3, verset 14. Vous avez trouvé Josué 3, tout au début de la Bible. Ça va? On m'entend bien au fond, Alexis? Ça va? Je ne sais pas comment Moïse faisait pour parler à tout son peuple. Sans sonorisation. Mais il y a des endroits qui sont très, très, très bons pour amplifier la voix. Quand je parle dans ma cuisine, mes voisins à 100 mètres en face m'entendent. Et vous, parfois, il n'y a pas besoin de micro. Hein. Alors, nous allons faire cette lecture. Le peuple sorti de ses tentes, ils sont dans le désert encore, pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, au fleuve du Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés dans l'eau du Jourdain, au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, la mer morte, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, de chaque famille. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. » Bénis ta parole, Seigneur, nos frères et sœurs, assemblés, les enfants, ton serviteur, que chacun de nous reçoive cette inspiration de Dieu par ta parole. Amen. D'abord, peut-être faire une petite introduction pour se remettre dans l'histoire. en espérant que vous lisez cette histoire d'Israël qui est une grande leçon pour chacun de vous et moi aussi. Ils sont passés 40 années dans le désert, c'est énorme 40 années. Et peut-être que certains ont dû penser qu'on resterait toujours dans le désert, parce qu'on ne s'en sortait pas, on tournait en rond. Et ils ont dû penser que leur vie, c'était le désert. Est-ce qu'ils pensaient même, est-ce qu'ils priaient même pour la terre promise? Je ne sais même plus, je ne sais pas. Ils ont pensé que rien ne changerait. Il y a parmi nous des frères et sœurs qui vivent des temps de désert et qui se disent au fond d'eux, j'ai l'impression que rien ne changera. Il y en a parmi nous. Et peut-être donc que les enfants d'Israël disaient que Dieu est un maître sévère et que la terre promise est un rêve, une histoire des parents, des grands-parents. Après tout, est-ce qu'elle existe vraiment, la terre promise? Je pense à cette histoire et j'essaie d'imaginer. Beaucoup d'enfants sont nés dans le désert. Ils sont pas nés à la maternité de Saint-Grégoire. Ils sont nés dans le désert. Ils ont appris à lire dans le désert, ils ont appris à écrire. Le peuple d'Israël était un peuple cultivé, Dieu leur a écrit une lettre. Ils ne connaissaient rien d'autre que des cailloux, de temps en temps un scorpion, des tombeaux, la nuée quand même, la manne quand même. Et puis leur père ne croyez pas trop à cette histoire de Moïse qui les emmenait dans une terre où coule le lait et le miel. Vous aimez, au fait? Et leur père murmurait. Ça y allait. Il murmurait tellement qu'il ne vivait même plus la merveilleuse histoire de leur salut. Si nous murmurons, nous ne verrons pas l'histoire. Chrétien, c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui fait confiance à l'avenir de Dieu. Amen. Et leurs parents mouraient les uns après les autres, parce que 40 années, ceux qui sont sortis d'Égypte à 60 ans, ben, ils mouraient. Alors je pense à cette jeunesse, je pense aux enfants parmi nous, je pense à cette jeunesse aussi, qui était née dans le désert et qui n'avaient pas des modèles encourageants. Leur père ne disait pas, « Allez les enfants, encore un effort, on va entrer dans la terre promise, et vous allez voir, vous pourrez jouer au bord des ruisseaux, vous pourrez aller pêcher dans les lacs, vous pourrez avoir des jardins pour vous amuser. » Non, leurs parents disaient le contraire. « On mange mal, on ne s'en sortira pas. » C'est de la faute de Moïse. Alors, ils écoutaient ces murmures. Si nos enfants écoutent à table chez nous nos murmures, nos découragements, nos critiques, nos colères, les enfants vont perdre la foi. Mais Moïse ne cessait jamais de leur rappeler la sortie d'Égypte. Parce que le salut, c'est sortir. Le salut, c'est une rupture. On arrête quelque chose, on commence autre chose. Ils n'arrêtaient pas de leur rappeler la mer Rouge et comment Moïse avait entendu les paroles de Dieu sur une montagne toute en feu. Moïse dit même que les flammes allaient jusqu'au milieu du ciel. Je ne veux pas imaginer tout, hein, mais je me suis dit peut-être que les flammes faisaient 7-8 kilomètres de haut. Voilà, Moïse dit ça, les flammes montaient jusqu'au milieu du ciel. Alors, les enfants n'avaient pas vu tout ça, évidemment. Les enfants n'avaient pas entendu la voix sur la montagne. J'ai vécu avec le Seigneur certaines choses que les enfants n'ont pas encore vécues. Ils me regardent tous. Je n'ai pas vu des flammes de 8 km de haut. J'ai vu la grâce du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Et vos parents aussi. Et Moïse ne cessait de leur rappeler qu'il y a eu un miracle d'amour à la base. Il y a eu une parole de Dieu. Il disait, Moïse, j'aime bien Moïse, moi. Quel pays a un Dieu aussi proche que le nôtre quand nous prions, toutes les fois que nous prions? Oui, nous avons un Dieu dans le ciel qui est proche de vous. Et cet été, je prie pour que vous soyez bénis dans votre maison et dans votre famille et dans les sorties que vous allez faire. Amen. Amen. Moïse leur disait souvent, fais attention à tous tes jours. N'oublie pas ce que Dieu t'a promis. Raconte cette histoire à tes enfants et à tes petits-enfants. Les enfants ont besoin que nous leur donnions un chemin à suivre. J'écoutais cette semaine une émission à la radio, et très intéressant, il disait, les bébés sont les plus forts. C'est vrai ? Quand ils nous commandent quelque chose, nous leur obéissons. Si vous ne donnez pas à boire à votre petit, vous allez voir ce soir, vous allez obéir. Et les enfants sont fragiles. Ils nous demandent de prendre soin d'eux. Ils nous demandent qu'on leur raconte l'histoire. Dans le désert, ils ne manquaient de rien. Ils avaient la manne tous les matins. Ils avaient de l'eau du rocher. Ils devaient habituer. On peut s'habituer, vous savez, on peut s'habituer au culte, on peut être là sans chanter, sans lire, sans écouter. L'habitude, ça tue l'habitude. Ils ne manquent de rien, mais ils n'ont pas vu le début. Et je voudrais leur dire que le Seigneur nous a conduits vers le Christ, mais aussi vers une église au milieu de la ville. Le Seigneur nous a conduits. On a mis la main à la pâte, comme Israël. Mais on voudrait, les enfants, vous diriger, vous conduire vers cette église où vous allez aller chanter avec nous, rencontrer des nouveaux amis et écouter la parole du Seigneur. Amen. Il aurait fallu que leurs parents leur disent, vous passerez ce Jourdain, vous sortirez du désert et vous irez dans un bon pays que Dieu vous donne. Il ne leur disait pas ça. Bon, j'ai trois petites choses à vous dire ce matin. C'est l'été, il fait chaud, il fait bon. Alors, je ne vais pas vous parler pendant 15 heures. Première chose, le Seigneur ouvre un nouveau chemin. Parce que le peuple d'Israël, pendant 40 ans, était dans le désert. Et un jour, ils se sont trouvés devant la terre promise. Il y avait le Jourdain qui passait. Ils étaient devant la terre promise. Mais il fallait y entrer. Il ne fallait pas poser encore ces questions qu'on a entendues pendant 40 ans, questions d'incrédulité. Monsieur, est-ce qu'il y a des géants dans la terre promise? Monsieur, est-ce qu'il y a des ennemis là-bas? Monsieur, comment on va faire pour traverser la rivière? On n'a pas de barque, on n'a pas de pont. Monsieur, comment on va faire pour passer devant Jéricho avec ses armes, ses armées, ses méchants? Ah bah oui. Quand j'ai regardé tout ce travail que nous avons fait pendant ces années, j'aurais pu dire comment on va faire. Le Seigneur a donné à Josué une parole. Médite la parole et tu seras fort. Ne t'épouvante pas, car le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu feras. Amen. Ne t'épouvante pas, Église du Seigneur. Le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et Dieu leur avait dit, l'arche vous montrera le chemin, car vous n'avez jamais passé par ce chemin. L'arche, c'est quoi ? C'est une boîte en or. Et sur la boîte, il y avait des anges en or. Et Dieu parlait au milieu de ces anges. On entendait la voix de Dieu. C'était l'arche comme le trône de Dieu. Et Dieu dit, vous allez suivre ce coffre, vous allez suivre cette parole qui va vous parler, et là, vous allez arriver. Parce que c'est un chemin que vous ne connaissez pas. C'est du nouveau, c'est de l'inconnu. Nous allons entrer dans un chemin nouveau. Amen. Mais Dieu vous nous montrera la voie, nous montrera la marche. La vie avec le Seigneur, c'est toujours du nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui se répète. Le baptême que vous avez pris vous engage dans une vie toujours nouvelle. Notre entrée dans l'église du Tabor sera quelque chose de toujours nouveau. La vie avec le Seigneur, c'est une nouveauté chaque jour de vie. J'aime bien le livre de Josué. Il y a une ambiance de commencement, comme le départ du Tour de France. On ne sait pas qui va arriver, mais enfin, il y a un commencement. Le Seigneur nous demande de sortir de nos habitudes. Il demande de le suivre, d'être toujours en train de naître à ce qu'il nous prépare. Dans la Bible, le chemin de la vie, ce n'est pas revenir toujours au même point. Revenir en Égypte, combien de fois ils ont dit, on voudrait revenir en Égypte, on voudrait revenir au commencement. C'est comme s'ils disaient, on voudrait revenir dans le ventre de notre mère. On ne peut pas revenir dans le ventre de notre mère. Il faut continuer. Il y en a qui aimeraient bien se refaire petit enfant, non? Tellement parfois la vie les blesse, les heurte, mais on ne peut pas revenir en arrière. Il faut continuer de progrès en progrès. Le Seigneur dit dans la parole, ne te retourne pas. Va avec la force que tu vas. Ne t'arrête pas en chemin. Ne te retire pas pour te perdre. En avant, toujours en avant. Amen. Le Seigneur nous ouvre un chemin nouveau. Traverser le fleuve. Vous savez que ce mot-là, traverser le fleuve, signifie accoucher. Dans plusieurs langues du monde, pour dire accoucher, on dit traverser le fleuve. Venir au monde. Naître. Ce sera pour Israël comme une naissance. J'aimerais que ce soit notre entrée là-bas comme une naissance pour l'Église. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Grâce au Saint-Esprit. Alors on va traverser le fleuve, les enfants. Mais pas de pagaille. Que chacun suive bien l'arche qui sera devant nous. Il ne s'agit pas de dire, moi, Dieu m'a montré qu'il faut passer par là. Moi, le Seigneur m'a montré qu'il faut passer par là. Moi, je crois qu'il faut être là. Le Seigneur ne livre pas son peuple comme un troupeau sans berger. Il ne faut pas de pagaille dans l'Église. Il faut qu'il y ait l'ordre et la bienséance. Et Dieu va donner des repères à Israël, aux petits d'Israël, aux enfants, aux grands-pères, aux grands-mères qui sont encore là. Il va leur dire, vous suivrez les sacrificateurs. Ces hommes qui portent l'arche. Ces hommes qui sont solides. Ces hommes qui portent Dieu. Regardez-les. Imitez-les, suivez-les. En les suivant, vous allez traverser le Jourdain. Amen. Il faut dans l'Église, même si vous n'avez pas d'enfants, il faut des pères, des mères, pas des gens qui font la belle ou le beau, qui s'amusent avec le feu, avec le diable, mais des gens qui portent Dieu pour qu'on soit des repères. Et sur Internet aussi, on a besoin de repères. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui jouent avec le feu, mais des gens qui suivent le Seigneur. Amen. Deuxième leçon que j'aimerais vous dire après un chemin nouveau, oui, on n'a jamais passé par le Jourdain. Avez-vous déjà traversé la Vilaine, le Rhône, la Seine? Ils ont traversé le Jourdain, chemin nouveau. Deuxième leçon que j'aimerais vous donner, c'est les eaux ont été coupées. Dès que les porteurs de l'arche ont mis le pied dans l'eau, ils ont dû se dire, ah, pourvu que ça s'ouvre. Parce que si ça ne s'ouvre pas, on va continuer, l'eau va monter, 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 on va disparaître. Pourvu que ça s'ouvre. Dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain s'est coupé. Coupé. Avec un tas d'eau vers la montagne et un tas d'eau vers le bas. Aucune force humaine ne peut faire ça. Certains auraient pu dire, oui, mais enfin, on pourrait faire comme Jonas, être pris par un poisson et on traverserait. Il y a toujours des gens qui veulent vivre l'expérience des autres. Oui, mais un tel, il n'a pas fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on ferait comme ça? Oui, mais un tel, il a marché sur l'eau, pourquoi est-ce qu'on ne marcherait pas sur l'eau? Pierre a marché sur l'eau. Oui, mais Noé, il a fait un coffre, une grande arche, l'arche de Noé, pourquoi on ne ferait pas une grande arche? On n'a pas à imiter les autres. Dieu va nous donner un chemin bien à nous, pour nous. Voilà. On ne va pas imiter. On va prendre ce chemin. Et la Bible dit, les eaux ont été coupées. Ben, je vous avoue que je n'ai pas compris. J'ai essayé avec mes ciseaux hier de couper l'eau. J'y arrive pas. Et vous? On coupe du pain. On coupe une pomme. Mais comment couper de l'eau? À Dieu, tout est possible. Amen. Vous savez qu'autrefois, pour faire un engagement entre deux personnes, c'est un peu étrange ce que je vais vous dire, on coupait une chèvre en deux. Bah, dites donc. Je vous avoue, je n'aurais pas été capable de tuer la chèvre. Et vous? On l'a coupée en deux et on passait au travers. Entre les morceaux. Comme si on voulait dire, eh bien, si je ne respecte pas mon engagement, si je ne respecte pas ma promesse, que je sois comme la chèvre coupée en deux. C'est sérieux. Hein. Et je crois que les eaux coupées, parce que le mot, il est très beau dans la Bible, couper l'eau. Je pense que ces eaux coupées représentent un engagement entre Dieu et nous. Donc, je suis responsable. Je suis responsable devant Dieu. Chacun, pour entrer dans la terre promise, est responsable. Israël est responsable, Dieu est responsable. Nous sommes des partenaires. L'histoire de l'Assemblée de Rennes va continuer parce que chacun de nous doit prendre conscience qu'on est responsable. On n'est pas là le dimanche à prier, puis après on fait ce qu'on veut dans la semaine, et puis on commet le péché, et puis voilà, et puis après on revient, puis on rechante, puis ça continue, on fait rien, on est dans l'église. Non, on est des responsables. Chacun doit faire sa part. C'est pas Israël qui a coupé l'eau, c'est Dieu qui a coupé l'eau. Mais Dieu a coupé l'eau au moment où les hommes mettaient le pied dans l'eau. Comprenez? Au moment où ils se sont mouillés les pieds. Parfois, on disait autrefois, il faut se mouiller. Vous savez ce que ça veut dire, il faut se mouiller? Ça veut dire, il faut risquer. Il faut y aller. Il faut mouiller sa chemise. Ça veut dire, ben, il faut en donner un coup. Dans le travail. Dieu a ouvert l'eau avec la confiance, l'obéissance des hommes qui portaient l'arche. Et ces hommes étaient des hommes fermes, ils ont mis les pieds dans l'eau. Leurs pieds ont été mouillés, c'est pas grave. Et puis le terrain s'est ouvert et l'eau est partie. Ils ont marché à sec, le sol était sec. Et ils se sont tenus de pied ferme, là, au milieu du Jourdain. Et pendant je ne sais pas combien de temps, tout le peuple est passé dans le Jourdain. En hâte, dit la Bible. Il ne s'agit pas de flâner, de se promener, de prendre un transat, de s'arrêter. Allez, vite les enfants, on passe. Combien de temps ça a duré? J'ai essayé de compter hier soir. Moi, je me dis 5 heures. Enfin, entre 5 et 12 heures, à peu près. Hein. Parce qu'il y avait les petits, il y avait des couples, il y avait des bébés, il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait une bétail, il y avait tout ça, et le matériel et tout, et les tentes et le tabernacle. Entre 5 et 12 heures, et pendant 5 ou 12 heures, eh bien, le sacrificateur était debout, avec le coffre sur les épaules, Dieu sur leurs épaules, ils n'ont pas bougé, le pied ferme, ils n'ont pas bougé, et tout le peuple est passé. Amen, c'est beau. J'ai imaginé cela, et je me suis dit, quelle histoire magnifique. J'ai vu, je crois, j'ai l'impression que j'ai vu dans mon rêve que les pères portaient les petits sur leurs épaules, non ? Vous n'auriez pas fait ça, les pères, parmi nous? Pour aller plus vite, on a pris le petit enfant qui avait 3 ans, on l'a mis sur ses épaules. Regarde bien, fiston, ce que tu vois là, tu ne reverras jamais de ta vie. Regarde bien là-bas, l'eau, et on passe au travers de l'eau. Amen, là-haut, amen. Et puis j'imagine que les jeunes, ils ont dû porter les grands-mères qui étaient un peu fatiguées. Il n'y avait pas beaucoup de gens âgés à l'époque. Ils étaient restés morts dans le désert, mais il y avait quand même des gens... Et quand même des femmes âgées, j'imagine qu'ils les ont un peu aidées à passer. Ils se sont encouragés, il n'y avait pas de murmure. Pour la première fois de toute l'histoire du peuple juif, aucun murmure, aucune critique contre Moïse, rien. Ils passaient. Ça devait être beau. Hein. Dans la Bible, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai regardé l'histoire plusieurs fois hier, et dans cette histoire du passage, moi, j'ai vu de la discipline. Parce qu'il y avait de l'eau qui était là, et l'eau qui était là. Il ne s'agissait pas de dire, « Maman, est-ce que je peux aller là-bas pour faire pipi ?» Non, il y avait de l'eau partout. J'ai vu de la discipline, j'ai vu du respect. Ces sentiments-là, je vous les donne, j'aimerais bien qu'on en reparle et qu'on les développe bien dans l'Église. Du respect pour les sacrificateurs, pour Moïse, pour Josué. Moïse était mort. Hein. Je vois dans cette histoire du calme. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de cri. De l'adoration. Il devait se dire, « Oh, comme tu es grand, comme tu es grand !» J'imagine dans cette histoire du silence. On ne criait pas « Où t'as mis mon portable ?» tout ça. J'imagine dans cette histoire de l'émerveillement. « Oh, que c'est beau, que c'est beau !» Et en face, tous